crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Aujourd'hui, nous observons ensemble non pas une, mais plusieurs œuvres. Il s'agit d'un ensemble de gouaches réalisées entre 1940 et 1942 par l'artiste Charlotte Salomon. Charlotte a à peine 23 ans lorsqu'elle décide de peindre ses 1325 gouaches sur l'histoire de sa vie. 18 mois de création intense avant d'être assassinée en octobre 1943 à 26 ans à Auschwitz. Témoignage unique donc de l'époque du national-socialisme et de l'Holocauste. Dans ce contexte, et alors que son histoire familiale comporte une longue série de suicides, l'œuvre que Charlotte entreprend alors est paradoxalement un hymne à la vie, un déferlement d'énergie créatrice, un véritable combat, justement, contre l'absence d'issue et le désespoir.
Elle se vit donc placée devant ce choix. Mettre fin à ses jours, ou bien entreprendre quelque chose de vraiment fou et de singulier.
Vie, point d'interrogation, ou théâtre ? Tel est le titre que Charlotte Salomon a donné aux 800 feuilles qu'elle a choisi de réunir et numéroter. 800 feuilles de 32,5 par 25 cm, nous livrant sa vie sous la forme d'une pièce de théâtre. Ce sont des peintures accompagnées de textes, parfois écrits sur des feuilles de papier calque, parfois directement sur les gouaches. Les protagonistes sont présentés dans les premières feuilles sous des pseudonymes. Charlotte fait référence à elle-même à la troisième personne, sous le nom de Charlotte Kahn. Puis, c'est le déferlement expressif d'une saga familiale qui mêle images, textes, mélodies et citations littéraires et musicales. Les premières feuilles campent le décor dans un Berlin bourgeois des années 20, petite séquence d'images soutenue par la convocation de certains airs connus de musique. Petit à petit, l'écriture transpire sur la page, entoure les personnages, remplit l'espace. Charlotte décrit aussi les persécutions des années 30, la séparation, la fuite. Tragédies politiques et personnelles se mêlent dans une utilisation très expressionniste de la couleur et des perspectives. Les lignes s'effondrent pour caractériser les déchirures intérieures des personnages. L'échafaudage des lettres soutiennent la construction des images. Telle une œuvre cinématographique, c'est précisément dans l'enchaînement des motifs et des mots débordant d'une feuille à l'autre que réside le concept incomparable de son travail.
Plus rien. Rares sont les œuvres ainsi créées. Dans un tel degré d'arrachement au monde, tout est limpide. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Il n'y a plus d'hésitation dans ses mains. Elle va peindre ses souvenirs de manière romanesque. Les dessins seront accompagnés de longs textes. C'est une histoire qui se lit autant qu'elle se regarde. Peindre et écrire. Cette rencontre est une façon de s'exprimer entièrement, ou disons totalement. C'est un monde.
War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint.
Et on entendait la grosse voix de Pascal Zonzi lire à l'instant un extrait du très beau roman consacré à Charlotte Salomon par David Funkinos. car j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, dans Les Regardeurs, l'auteur de ce livre, l'écrivain David Fonkinos. Donc, bonjour David.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir dans l'émission. Alors, on ne vous présente plus depuis votre premier roman, Inversion de l'idiotie, publié en 2002 chez Gallimard. Vous avez été maintes fois consacré, notamment en 2009 avec La Délicatesse, en 2011 avec Les Souvenirs. Deux romans qui ont été ensuite adaptés au cinéma. Et vous venez de sortir un nouveau roman d'ailleurs, un roman satirique, un polar moderne,
oui,
je
voilà,
crois.
Une sorte de comédie.
Il s'appelle comment ?
Le mystère Henri Pic, une D'accord. enquête littéraire sur un manuscrit retrouvé.
Toujours chez Gallimard.
Oui.
Mais on est ici pour parler d'un roman un peu plus ancien, qui date de 2014, que vous avez publié, qui s'appelle Charlotte, et donc qui avait pour sujet l'œuvre de Charlotte Salomon, cette artiste des années 30, dont nous parlons aujourd'hui. Ce roman est un peu différent d'ailleurs de ceux que vous écrivez d'habitude, puisqu'il part d'une histoire existante. Comment est née finalement cette envie d'écrire sur cette Charlotte ?
Vous avez raison, il est différent de La Délicatesse ou tous les autres romans de fiction que j'ai pu écrire avant. C'est parti de manière très simple, c'est un coup de foudre artistique, un choc émotionnel. En 2006, quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon, c'est quelque chose qui a profondément changé ma vie, qui m'a hanté pendant des années. Je raconte d'ailleurs dans mon livre qu'il y a à la fois toute l'histoire de Charlotte Salomon, mais aussi mon enquête, comment j'ai recomposé les éléments de sa vie et pourquoi elle me touchait autant. C'est une biographie émotionnelle. Et je raconte à quel point elle était en permanence présente. Et elle me fascinait par sa personnalité, par son travail hors norme. Elle était ce qu'elle avait laissé. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai essayé d'écrire le livre. Je l'ai abandonné maintes fois. Je suis allé sur tous les lieux de sa vie. J'ai retrouvé des témoignages. Et puis, enfin, j'ai réussi à l'écrire après presque 10 ans. Et il est sorti il y a 2 ans.
Alors, ce roman a connu un succès considérable depuis sa publication et a obtenu 2 prestigieux prix littéraires, le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Et en 2015, d'ailleurs, est paru chez Gallimard, je l'ai avec moi, une version illustrée par des gouaches de l'artiste. Aujourd'hui, David, vous êtes donc notre regardeur de l'œuvre de cette artiste trop souvent oubliée, Charlotte Salomon.
Voici comment ces feuilles prennent naissance. La personne est assise au bord de la mer. Elle peint. Soudain, une mélodie lui vient à l'esprit. Alors elle commence à la fredonner. Elle remarque que la mélodie va exactement avec ce qu'elle veut coucher sur le papier. Un texte s'ébauche en elle, et voici qu'elle se met à chanter la mélodie avec ce texte qu'elle vient de composer, recommençant à voix haute un nombre incalculable de fois, jusqu'à ce que la feuille lui semble achevée. Il arrive souvent que plusieurs textes voient le jour, donnant lieu à un chant à plusieurs voix, ou bien...
On entendait à l'instant l'un des textes du prologue de l'œuvre de Charlotte Salomon, donc « Vie ou théâtre ?» pour l'interrogation. David Fonkinos, on se rend compte tout de suite qu'il va s'agir d'une œuvre originale. Elle nous dit « La personne est assise au bord de la mer, elle peint, soudain, une mélodie lui vient à l'esprit. » L'artiste, d'ailleurs, qualifie elle-même, je crois, son œuvre de « Singspiel », donc de « pièce chantée ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, là, les derniers mots, c'était des textes écrits par Charlotte, parce que ce qui est magnifique, c'est que On est avec une très très grande artiste peintre, mais son œuvre est tridimensionnelle avec des indications de musique et aussi des textes littéraires. Et elle met en scène finalement son propre travail artistique qui est une autobiographie qu'elle qualifie de pièce chantée justement parce que elle raconte sa vie sous forme théâtrale, dessinée, mais avec des indications de musique puisqu'elle veut que finalement sa narration soit joyeuse malgré le sujet qu'elle évoque, c'est-à-dire sa vie, sa destinée. Et on va voir, et c'est peut-être le premier point à dire avant tout quand on parle de Charlotte Salomon, c'est ce que vous avez dit dans votre présentation, c'est quand on traverse sa vie, quand on voit le nombre de brûlures et de souffrances qu'elle va devoir affronter, et bien justement à un moment de sa vie en 1940, alors qu'elle a tout quitté, puisqu'elle est allemande, elle est dans le sud de la France, elle va pour se sauver, pour pouvoir finalement surmonter le désespoir, la folie, peut-être même le suicide. Elle va se plonger corps et âme pendant 2 ans dans une œuvre qui est donc une pièce chantée, qui est lumineuse, qui a beaucoup d'humour, de fantaisie et d'intelligence.
Alors, je sais que vous-même, vous avez été d'ailleurs professeur de guitare, donc vous vous intéressez à la musique, ça, il me semble.
Oui, moi c'est vrai que quand j'ai fait des études de jazz il y a très longtemps, mais vaut mieux éviter d'en parler. J'ai bien fait d'arrêter, pense. Et c'était mieux pour vos oreilles, peut-être, que je devienne écrivain. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui m'a fasciné, on dit souvent que un coup de foudre, c'est la reconnaissance de quelque chose qui existe déjà en nous. Moi, quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon, elle était tout ce que j'aimais. Elle faisait appel à ma culture musicale, puisqu'il y a beaucoup d'évocations de Bach, de Schubert, de beaucoup de choses que j'aimais, pictural évidemment, et puis aussi la culture littéraire allemande, la langue allemande. Voilà, ce sont des thèmes que j'avais déjà évoqués ou abordés, et subitement, quand j'ai découvert cette œuvre, j'ai été bouleversé parce que je la découvrais, mais aussi parce qu'elle faisait écho en moi à beaucoup de choses.
Oui, il y a un rapport donc omniprésent à la musique. La peinture elle-même, d'ailleurs, semble prendre son inspiration dans la musique. Est-ce que c'est votre cas?
Aussi. En tout cas, moi, oui, c'est évident.
Lorsque vous écrivez, je veux dire.
Oui, quand vous avez raison, quand on écrit, on n'est pas uniquement dans les mots. Les mots ont un rapport avec la sonorité. C'est très étonnant parce qu'il m'arrive aussi, moi, parfois de fermer les yeux, de voir des formes géométriques. C'est assez éloigné de la synesthésie. Charlotte est plus synesthésiste. Vraiment, elle, on voit une conversation permanente entre les différentes formes d'expression. D'ailleurs, je cite à un moment Kandinsky, qui dans mon livre, qui parle de ça. Qui parle du fait que des couleurs vous imposent des formes, des mots, des voix. Et c'est un travail de solitude totale. Charlotte est seule au monde, dans des conditions extrêmement difficiles, dans une petite chambre d'hôtel. Et justement, elle recrée un monde total, avec de la musique, de l'inspiration, du cinéma, évidemment, de la couleur et de la littérature.
Néanmoins, ce rapport à la musique ne vient pas de nulle part, puisqu'elle a été initiée... Il me semble au répertoire classique et moderne aussi d'ailleurs, par sa belle-mère, Paula Salomon Lindbergh, qui fut une chanteuse d'opérette, d'opéra, de lead.
Oui, très connue.
Très demandée à l'époque, non ?
Très, 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 très connue. C'était même une star. Et voilà, c'était une femme juive qui, après 1933, n'a eu plus le droit d'exercer en public. Mais vraiment, elle faisait des tournées en Europe. Et vous avez raison, Charlotte a baigné vraiment dans un univers musical. Sa belle-mère est arrivée à l'âge de 16 ans, puisque sa mère s'est suicidée quand elle avait 8 ans. Et c'est un secret qu'elle a su bien plus tard. On en parlera, mais toute l'histoire familiale de Charlotte Salomon est saisissante. Et c'est vrai que quand on est face à ses tableaux, on est bouleversé par la qualité artistique, mais aussi saisi par tout ce qu'elle raconte de sa propre vie. Et donc, c'est vrai que l'univers de son enfance est un univers de la grande bourgeoisie artistique, culturelle, allemande. Beaucoup de musique par sa mère, qui chante des chansons au piano, et sa belle-mère. Mais aussi, grâce à sa belle-mère, elle va avoir accès à des architectes, à des grands philosophes.
À un grand professeur de musique va la marquer dans une histoire d'amour incroyable.
Oui, ça c'est vraiment au cœur de la vie de Charlotte Salomon. Mais c'est vrai que moi, dans mon livre et dans l'histoire de Charlotte Salomon, on est au cœur de cette Allemagne des années 30 qui se scinde entre deux camps, comme avait dit Billy Wilder. Les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. Et c'est vrai qu'il y a ces deux camps qui se forment. Et la famille de Charlotte Salomon, pour qui l'Allemagne est plus importante que tout au monde, son père est un héros de la Première Guerre mondiale, va rester jusqu'au bout, jusqu'en 1939. Et Charlotte va quitter l'Allemagne, va partir en exil pour se sauver.
Oui, c'est vrai que c'est important de dire que malgré cette période où elle est recluse et pendant laquelle elle va créer entre 1940 et 1942 son œuvre, néanmoins, toute sa vie, elle a accès donc à une culture extraordinaire, donc la musique, mais aussi la philosophie, etc. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, parce qu'il y a beaucoup de citations d'ailleurs dans Vie ou théâtre, dans son œuvre.
Oui, exactement. Alors d'abord, il faut préciser une chose. Parfois, on a le sentiment avec Charlotte Salomon qu'on est dans l'art-thérapie d'une jeune femme qui, en exil, se met à peindre et à raconter sa vie. Non, pas du tout. On est face à quelqu'un qui avait une détermination inouïe quant à sa dimension artistique, puisqu'en 1938, elle intègre les Beaux-Arts de Berlin, ce qui est un fait à noter vraiment pour une jeune femme juive, et elle obtiendra le premier prix en 1938 aux Beaux-Arts de Berlin, prix qu'elle n'aura pas le droit de recevoir. Donc on était face à quelqu'un qui avait une ébullition et un devenir artistique inouï. Et c'est vrai que sa culture, et c'est ce qui est aussi fascinant dans son travail, quand on voit son œuvre, c'est qu'elle est nourrie par beaucoup de références. Mais il faut imaginer que Charlotte, entre 23 et 25 ans, elle est non seulement seule au monde, mais elle a aucun document à disposition. Elle a des conditions matérielles extrêmement difficiles. Elle peint qu'avec trois couleurs, avec la peur au ventre, en ayant peu à manger. Et c'est vrai que quand on voit la somme de culture et de référence, c'est tout à fait impressionnant, puisque tout est lié à sa propre mémoire. Elle est hyper musique,
en un sens.
Oui,
c'est un travail à la fois de survie, comme vous le disiez au début, mais aussi de remémoration, de souvenirs intenses.
Oui, exactement. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle se transforme en personnage. Elle parle d'elle à la troisième personne, elle parle de son père, de sa belle-mère, de l'homme qu'elle aime, qui est au centre de toute son œuvre, puisqu'il y a une histoire d'amour vraiment fondamentale au centre de l'œuvre de Charlotte Salomon. Et puis, ça lui permet finalement, il y a quelque chose de très très beau, de faire revivre son passé, vous avez raison, et de le dessiner. Il y a quelque chose d'absolument lumineux et éblouissant à l'idée d'être seule, sans la moindre photo, sans la moindre possibilité de contacter le passé d'une certaine manière, et à travers des dessins, à travers de la musique, à travers ce monde qu'elle fait revivre de ses propres cendres, de sa propre intimité, elle va pouvoir être en connexion avec tous les gens qu'elle aime.
Alors, dans la suite du prologue qu'on entendait juste avant, Charlotte décrit en quelque sorte sa démarche artistique, au-delà de l'aspect musical. Elle dit « Il s'agit de s'extraire complètement de soi pour pénétrer au plus profond de l'âme. » Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché en tant qu'artiste et qui ferait écho peut-être à votre propre pratique de l'écriture?
Je pense que très peu de gens peuvent faire écho à l'intensité qu'a été celle de Charlotte Salomon. Rarement une œuvre a été créée dans de telles conditions. Et c'est ce qui est aussi fascinant. Il faut bien comprendre la vie de Charlotte Salomon, c'est-à-dire la succession de souffrances, de mensonges, drame. C'est une jeune fille qui subit l'humiliation, la peur, la violence, à la fois historique, puisque en tant que jeune femme juive, et ça aussi c'est compliqué, parce qu'en plus, elle est même pas, comment dire, en connaissance avec le judaïsme, elle fait partie de toute cette bourgeoisie allemande, laïque, complètement intégrée. Donc subitement, elle est bannie de la société, de toutes les sphères de la société, pour quelque chose qui lui échappe.
Et puis, elle ne comprend pas, en fait.
Elle ne comprend pas, elle voit la violence contre elle, elle voit l'exclusion. Ajoutée à ça, à la tragédie du siècle, on a une lourdeur inouïe dans cette famille, une sorte de malédiction mélancolique, noire, qui plane sur cette famille avec...
Mais qui n'a rien à voir au départ, d'ailleurs, avec...
Avec
cette ségrégation des juifs qui
non,
va hélas avoir lieu dans les années 30,
exactement,
enfin, dès les années 20.
Puisque les suicides, toutes les femmes de sa famille se sont suicidées et ça remonte à plusieurs générations.
Donc c'est un drame familial au départ.
Oui, il y a comme une infiltration mélancolique et morbide, et c'est vrai qu'elle est née elle-même avec une mère qui était absolument bipolaire, qui alternait en permanence l'euphorie et l'abattement le plus morbide, jusqu'au moment où elle s'est suicidée. Évidemment, on n'a rien dit à Charlotte, donc elle est née aussi, toutes ses premières années sont vécues sous un mensonge, puisqu'on lui dit que sa mère est morte de la grippe. Et d'ailleurs, le point initial de Charlotte Salomon, c'est qu'elle s'appelle Charlotte, tout comme sa tante, la sœur de sa mère, qui s'est suicidée à 18 ans.
Qui est la première qui s'est suicidée,
enfin, à 18 ans,
dans cette
sans
histoire
la moindre
dramatique
raison.
De...
Voilà, sans la moindre raison, elle s'est suicidée, elle s'est jetée dans l'eau glaciale en novembre 1913, et c'est vrai que Charlotte porte elle-même la mort en elle avec ce prénom. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'imagine une scène où elle apprend à lire son prénom sur la tombe de sa tante.
Mmh.
Et c'est ce qui est absolument... je répète tout le temps que c'est fascinant, parce que moi, je suis fou de Charlotte et c'est toute mon énergie depuis des années. Mais c'est vrai que de voir à quel point la mort est présente dans sa vie et qu'elle va transformer tout ça, à un moment donné, en une source pleine de vie, à travers sa création.
Alors votre roman, c'est pas seulement un roman sur la vie de Charlotte, c'est aussi un hommage. J'ai l'impression que vous exprimez, vous le disiez, votre propre fascination aussi, vous l'écrivez, vous l'énoncez, et votre désir de parvenir à la retranscrire. À ce propos, je propose que nous écoutions un passage de votre livre.
Pendant des années, j'ai pris des notes. J'ai parcouru son œuvre sans cesse. J'ai cité ou évoqué Charlotte dans plusieurs de mes romans. J'ai tenté d'écrire ce livre tant de fois. Mais comment ? Devais-je être présent ? Devais-je romancer son histoire ? Quelle forme mon obsession devait-elle prendre ? Je commençais, j'essayais, puis abandonnais. Je n'arrivais pas à écrire deux phrases de suite. Je me sentais à l'arrêt, à chaque point, impossible d'avancer. C'était une sensation physique, une oppression. J'éprouvais la nécessité d'aller à la ligne pour respirer. Alors, j'ai compris qu'il fallait écrire ainsi.
Nous sommes sur France Culture et dans Les Regardeurs aujourd'hui, nous observons avec l'écrivain David Fonkinos des œuvres réalisées par l'artiste Charlotte Salomon. Alors on entendait un extrait, un nouvel extrait de votre livre où vous expliquez comment vous est venue la forme du roman et notamment ce choix qui est frappant, qui est celui d'écrire une phrase par ligne. Vous parlez d'aller à la ligne pour respirer, qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai travaillé pendant 10 ans sur la vie de Charlotte Salomon et j'étais désespéré parce qu'elle était oubliée.
Ça veut dire quoi, travailler pendant 10 ans ? Ça veut dire faire des recherches
Oui, tout à fait. Je raconte dans mon livre, je suis allé tellement de fois sur tous les lieux de sa vie, mais c'est une biographie émotionnelle. Je ne suis pas journaliste. Mon enquête, elle était parfois simplement sensuelle ou émotionnelle. Le simple fait d'aller sur ses traces, j'avais l'impression de m'approcher d'elle et de la rencontrer. Et je raconte aussi toutes ces sensations dans le livre. Et je l'ai abandonné souvent parce que c'était trop difficile, je ne savais pas comment aborder sa vie, je ne savais pas si je devais être présent. Et puis un jour, j'ai commencé à aller à la ligne, donc c'est pas du tout de la poésie, mais simplement une respiration dans le texte, quelque chose qui a un rapport avec l'idée d'apporter une forme de douceur à la tragédie. Et c'est vrai que c'est la seule façon avec laquelle j'ai pu écrire ce texte. Au départ, tout le monde a trouvé ça un peu étrange d'écrire le livre comme ça, et j'étais persuadé que ce serait un livre très important pour moi, parce que j'allais enfin parler de cette femme que j'aime, mais qu'il ne pouvait pas rencontrer le succès, et j'ai été très très surpris finalement que cette forme-là, beaucoup de lecteurs ont adhéré, y compris les plus jeunes, puisque j'ai eu le concours des lycéens, et maintenant le livre est étudié dans de nombreuses classes, il vient de sortir en folio, ça aussi je suis très content, parce que ça permet à beaucoup de jeunes de pouvoir le lire, et finalement je me suis rendu compte en parlant avec tous les lecteurs que cette forme-là, qui est proche du chant, s'accompagnait aussi d'un rythme rapide de lecture, puisque les phrases se chevauchent et on lit le livre d'une manière assez cadencée, pour ne pas dire frénétique, à la fin du livre. Et ça se rapproche finalement du rythme de la vie de Charlotte, qui est, puisqu'on parle des tableaux et de la peinture, et j'espère que les auditeurs, au-delà de notre émission, auront envie après d'aller voir les tableaux de Charlotte, de se renseigner sur qui elle était. Mais c'est vrai que elle peint sa vie. Et coûte que coûte, elle doit finir sa vie. Et les derniers tableaux, elle ne peint pas, mais elle court, sont exécutés dans l'urgence.
Il y a une progression, en fait, dans
le rythme.
On va en parler, on va revenir là-dessus.
Et c'est pour ça que mon écriture, j'avais envie qu'elle épouse aussi cette énergie-là.
Et j'ai l'impression que ce silence, presque, c'est une sorte de respect, non ?
C'est très juste, parce que pour moi, on est dans l'hommage, on est dans l'admiration. On est dans
ce silence entre chaque ligne.
Exactement. On est dans des notions qui se rapprochent du respect. Vous avez totalement raison, de la délicatesse, d'une façon de s'agenouiller finalement ou de tout faire pour l'accompagner dans ce qui a été inachevé. parce que la grande tristesse, c'était de voir à quel point cette femme était oubliée, alors qu'elle a mis toute sa vie dans son œuvre. Il y a tellement de scènes, d'ailleurs, qui sont dans mon livre, parfois on me demande si j'ai inventé des choses, mais tout est la réalité. Et c'est vrai que quand elle a fini toute son œuvre, après 2 ans de travail d'une manière hypnotique et totale, elle a tout donné à un médecin dans le sud de la France, à Villefranche-sur-Mer, en lui disant cette phrase magnifique « C'est toute ma vie ». Et c'est grâce à cet homme, finalement, qu'on a pu avoir connaissance, après l'arrestation et la déportation de Charlotte, de l'œuvre.
Alors, pour expliquer à nos auditeurs, je vais revenir un peu sur cette œuvre totale, donc peinte et écrite par Charlotte Salomon, qui retrace son parcours avec des différentes périodes. On peut essayer de les raconter. D'abord, une enfance marquée par une tragédie familiale, donc elle perd sa mère très tôt, puis une histoire d'amour intense. Et vous attachez beaucoup d'importance à cette histoire dans votre propre roman, avec le professeur de chant Alfred Wolfson, qu'elle renomme Amadeus d'Aberlon, en hommage à Mozart, j'imagine. Puis une période d'exclusion de la société allemande. Donc en septembre 1939, la guerre vient d'éclater, sa grand-mère se suicide, encore un suicide dans sa famille. Et en mai 1940, Charlotte et son grand-père sont internés au camp de Gurs. Mais en juillet de la même année, ils sont autorisés, au moins provisoirement, à retourner dans le sud de la France. Et c'est là, dans les environs de Nice, que Charlotte composera son œuvre pour échapper en fait à la folie et à la morbidité ambiante. Donc vous le disiez, au fur et à mesure des gouaches que l'on peut observer et qui relatent ces événements, le style des peintures, mêlé d'écriture, gagne en intensité. Il y a un usage délibéré de la couleur, un rythme différent selon les moments du récit. Est-ce que vous pourriez nous décrire tout simplement les gouaches de Charlotte?
Tout d'abord, il faut bien préciser que cette différence dans le rythme est liée au contexte. C'est-à-dire qu'en 1942, elle sent l'urgence, elle sent la nécessité de finir, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque on a demandé aux ressortissants étrangers, à un moment donné, d'aller se faire ficher, et donc elle sent en permanence le danger planer sur elle. Son œuvre, il y aurait tellement de choses à dire, on a parlé à quel point elle était, source de survie, qu'elle était pleine d'humour, de fantaisie, de vie, puisque on voit à quel point elle a de l'ironie aussi, y compris sur le nazisme et sur l'arrivée de la tragédie. Elle se moque d'une jeune amie qui s'appelle Barbara, qui est le prototype de l'Aryenne et qui finalement va avoir la vie rêvée par rapport à elle-même et ainsi de suite. Elle parle de son père, de ses grands-parents, de sa famille. Ce qui est très étonnant, c'est aussi la modernité extraordinaire de Charlotte Salomon, c'est-à-dire qu'on peut être sensible ou pas, on peut aimer ou pas aimer, mais en 1940, ce qu'elle fait est absolument inédit. Cette sorte de bande dessinée accompagnée de musique.
Au-delà du contexte, l'aspect, même si on considère ces gouaches d'un point de vue très formel, on est presque dans une bande dessinée.
Complètement.
L'écriture vient complètement contaminer l'image. Il y a une série que j'aime beaucoup. Il me semble que c'est donc son amant d'Aberlone qui est en train de réfléchir après avoir bu du vin avec un ami sculpteur, qui s'alanguit et Charlotte le représente couché. Et puis petit à petit, sur 16 pages, 20 pages, ce corps va se démultiplier jusqu'à devenir presque simplement un trait de pinceau, comme si la pensée diffuse, prenait corps, et comme si le corps justement reflétait cette pensée alcoolisée et en même temps totalement inspirée de d'Aberlone.
Oui, c'est une peinture extrêmement vivante, parfois proche du cinéma aussi dans ses cadrages. Et puis, il y a un projet artistique un peu fou qui est de restituer une vie totale. Donc, elle retranscrit dans son œuvre tous les monologues de l'homme qu'elle aime, d'Alfred. Et c'est absolument bouleversant de voir à quel point elle dessine son visage, pas une ou deux fois, mais des centaines de fois.
Sous différents angles.
Exactement.
C'est cela que ça fait penser au cinéma, d'ailleurs. Il y a différents points de vue.
Oui, et on dirait qu'il y a 24 images par seconde, effectivement. Et puis, sous chaque visage, on a les mots, la restitution, des pensées, des théories d'Alfred. Imaginez l'émotion de cet homme qui a découvert l'œuvre alors qu'il vivait à Londres depuis la guerre en 1961. Ça fait 25 ans qu'il n'avait plus aucune nouvelle de Charlotte et il s'est rendu compte de l'importance inouïe qu'il a eue dans sa vie, parce que finalement, si elle a peint, c'était pour lui, en pensant à lui, et que elle estime être la théorie vivante des pensées d'Alfred, puisque lui, il dit qu'on peut aller au plus profond de la mort et revenir, et pour aimer et pour vivre véritablement, il faut avoir l'expérience de cette mort, puisque lui-même a été un survivant de la Première Guerre mondiale. Et on se rend compte que toute l'intensité de son œuvre, elle est destinée vers cet homme-là.
Et inversement, lui a un rôle très important. C'est lui presque qui l'aide à survivre, puisque lorsqu'il admire ses peintures, tout d'un coup, elle a l'impression de trouver un sens à sa vie.
Oui, il faut bien imaginer que la première fois qu'il se rend compte, en fait, c'est le professeur de chant de sa belle-mère.
D'ailleurs, donc, il est fou amoureux de sa belle-mère, il me semble, au départ.
Oui, alors ça, c'est ce que raconte Charlotte, mais ça, c'est vrai, ça, c'est vrai.
Elle est très jalouse, Charlotte, on le sent.
Oui, en tout cas, c'est ce qui est aussi très touchant dans toute cette œuvre, c'est-à-dire qu'on est au cœur de la sentimentalité aussi d'une jeune fille, et puis il faut tout replacer dans le contexte, toujours. Imaginez que Charlotte, quand elle rencontre Alfred, elle a 20 ans, elle n'a plus le droit d'aller à l'école, elle est exclue de toutes les sphères de la société, elle est recluse chez elle, et puis d'un coup, il y a cet homme un peu fantasque, érudit, qui rentre dans leur appartement, qui est le professeur de chant de sa belle-mère, et il rentre dans la chambre de Charlotte. C'est pas comme maintenant, l'arrivée d'un homme subitement, alors qu'elle a aucun contact avec personne, et elle va développer une fascination qui est démesurée. Et quand on voit l'œuvre de Charlotte, quand on voit la présence démultipliée de cet homme-là, on se rend compte à quel point la première rencontre est une sorte de condamnation à perpétuité dans le cœur de Charlotte. Et il va simplement regarder ses dessins, s'intéresser à elle. Et pour elle, dans un océan de solitude, ça va être inouï. Et puis, finalement, il va lui donner confiance en elle. Et il y a tellement de scènes dans la vie de Charlotte qui sont au-delà de la réalité, qui paraissent presque rêver ou fantasmer, mais leur dernière scène est d'une très très grande beauté, puisqu'elle quitte l'Allemagne, contrainte par son père, par sa belle-mère, parce que évidemment c'est trop dangereux, et avant l'âge de 22 ans, on peut quitter l'Allemagne avec un visa provisoire, et elle, pour elle, c'est un déchirement total, non seulement de quitter son pays, sa famille, mais surtout de quitter l'homme
son
qu'elle
amour,
aime,
oui.
Et il lui dit, c'est la dernière phrase qu'il lui dit, il lui chuchote à l'oreille, « Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi. » Et cette phrase, ça va être le leitmotiv finalement de toute l'énergie démente et artistique de Charlotte Salomon, puisque l'homme qu'elle aime croit en elle.
D'ailleurs, on parlait de cinéma. Albert Wolfson, je vais y arriver. Alfred Wolfson.
Vous pouvez dire que les prénoms, ça sera plus simple. Moi, je ne les dis pas.
D'ailleurs, ce fameux Alfred a aussi une influence par rapport au cinéma. Charlotte cite les propres paroles de ses théories, parce qu'en fait, c'est une sorte de philosophe. Il philosophe sur la vie, Alfred.
Oui, surtout sur le chant. Il a des très, très grandes théories sur le chant, qui d'ailleurs ont été reprises par des disciples quand il a quitté l'Allemagne et qu'il a fondé une école à Londres. Et c'est quelqu'un qui a encore son importance. Mais il y a un tableau très, très beau entre eux où Charlotte dessine, ils se tiennent la main et elle écrit en dessous « Un jour, nous serons tous les deux reconnus ». Et c'est magnifique parce que finalement, il a atteint une forme de postérité à travers l'œuvre de Charlotte.
À travers l'œuvre de Charlotte, non, c'est très beau. Et du coup, quand elle le cite sur le cinéma, elle dit, d'Aberlon dit « Au cinéma, l'être humain se regarde lui-même évoluer avec ses joies et ses peines, grandes ou petites ». C'est exactement le livre de Charlotte.
Oui, c'est exactement ça, parce que ce qui est très très intéressant dans le projet de Charlotte, c'est pas une autobiographie, c'est elle-même qui devient un personnage. Donc on est tout le temps, d'un point de vue narratif, finalement, en train d'avoir une distance, une distanciation par rapport à toutes les scènes qui se passent, et un recul, un possible commentaire. Puisque elle dit à ce moment-là, Charlotte éprouvait ceci, à ce moment-là, Charlotte éprouvait cela. Et donc, elle parle d'elle-même, évidemment. Elle cache pas, puisque c'est la même jeune fille, c'est sa vie. Mais elle a une pointe de commentaire ou d'ironie ou de tendresse. Quand elle s'avoue elle-même être profondément amoureuse, on sent qu'elle se dit « Oh ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas souffrir ?» Il y a quelque chose de l'ordre d'une conversation avec elle-même aussi.
Cette forme d'énonciation curieuse... Elle parle d'elle-même à la troisième personne, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous pourriez faire ?
D'une manière générale, moi, ma plupart de mes romans sont des fictions. J'invente des personnages et j'ai pas un rapport...
Oui, mais on met toujours un peu de soi.
Oui, complètement, vous avez raison, mais j'ai pas un rapport très excité à l'autofiction. Il se trouve que, paradoxalement, le seul livre où je suis véritablement présent, c'est celui-là, c'est Charlotte.
Parce que vous dites « je », vous dites votre fascination, votre problème à écrire ce livre.
Oui, et c'est surtout...
Assumez votre propre...
Pour moi, c'était très important à un moment donné de ne pas faire un livre froid sur Charlotte, pas une biographie classique. C'est vraiment un livre qui parle de toute sa vie, mais j'emmène le lecteur aussi avec moi sur le chemin de mon amour pour elle, de mon admiration, de ma fascination. Et c'est vrai qu'en ce sens, ce livre raconte autant mon admiration que la vie de Charlotte. Et puis parfois, c'est un peu cocasse, puisque je raconte aussi... toute mon enquête. Charlotte était dans une petite chambre d'hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat et moi j'allais tout le temps embêter la réceptionniste pour pouvoir aller voir cette chambre et elle en avait marre de moi, elle me prenait pour un psychopathe. Et là, après, le succès du livre, c'est extraordinaire puisqu'on a mis une plaque commémorative devant l'hôtel et tous les gens qui aiment le livre ou qui aiment Charlotte maintenant vont embêter la réceptionniste. Et donc, c'est assez émouvant de voir aussi tout ce qui s'est passé après la sortie du livre pour qu'on n'oublie pas Charlotte. Mais dans mon livre, j'avais envie de raconter ce qui se passe quand on va sur les traces de quelqu'un qu'on admire.
Alors avant de poursuivre, je vous propose d'écouter à présent l'artiste Christian Boltanski dans Une vie, une œuvre, émission consacrée à Charlotte Salomon en 2006, suivie de la lecture d'un nouvel extrait de votre livre.
Je suis toujours un peu attristé qu'on la mette forcément dans des musées juifs, qu'on parle forcément de son destin, qu'on parle forcément du nazisme, parce que je pense que c'est la limite. Je pense qu'elle est beaucoup plus importante que cela et qu'en fait, elle est plutôt... d'abord un très grand artiste, et puis quelqu'un qui a parlé de la difficulté de l'émancipation. Et peut-être même de l'émancipation du judaïsme, ou de la famille traditionnelle, disons. Mais que son destin, le fait que toute son œuvre est donnée au musée juif d'Amsterdam, la replace dans une sorte de position d'Anne Frank de la peinture qui à mon avis est fausse et qui la limite. Je dois dire que je préférais qu'elle expose au Centre Pompidou plutôt qu'au musée du judaïsme, l'histoire du judaïsme. C'est tout à fait stupide de dire ça parce qu'on ne sait jamais comment les choses seraient passées, mais moi j'imagine que si par miracle elle avait survécu, elle serait devenue une grande artiste et que finalement elle aurait parlé d'autre chose que le nazisme, enfin, je veux dire que ce n'était pas son sujet. Et que cette sorte d'arrêt qu'il y a eu l'a mis dans cette position, comme ça. Là, il y a une sorte d'œuvre arrêtée, et le fait que ça a été caché, retrouvé, enfin disons qu'il y a eu une histoire presque semblable à l'histoire du journal d'Anne Frank, la met dans cette sorte de témoin de la souffrance des Juifs d'Europe pendant cette période.
Compris que Charlotte s'était livrée entièrement. Pour la première fois, ses dessins ont été dictés par la nécessité. Elle n'a pas exécuté, mais vécu l'œuvre. Ce moment est fondateur pour la jeune fille. L'homme qu'elle aime a posé des mots sur sa frénésie. Ce qu'elle vient de vivre l'enivre. Elle sait maintenant où aller. Elle sait où se cacher, s'abriter de la haine. Peut-elle s'avouer qu'elle se sent artiste? Artiste. Elle répète ce mot, sans être réellement capable de le définir. Peu importe. Les mots n'ont pas toujours besoin d'une destination. On les laisse s'arrêter aux frontières des sensations. Errance en tête dans l'espace du trouble. Est-ce bien là le privilège des artistes? Vivre dans la confusion?
David Funkinos, vivre dans la confusion, privilège d'artiste.
Ça fait référence à l'atmosphère absolument chaotique des premières années de Charlotte Salomon. C'est vrai que quand on lit sa vie, quand on découvre par quoi elle est passée, tout ce qu'elle a traversé, on voit qu'il faut être une sorte de génie pour être capable de transposer tout ça en une source de vie et de création et de trouver le chemin pour pouvoir finalement aller prendre... presque être capable d'organiser le désordre. Et il y a de ça un peu dans l'œuvre de Charlotte Salomon, de faire une œuvre extrêmement puissante, structurée, réfléchie, pensée, alors qu'elle est issue du chaos et de la confusion. Alors, et puis, pour revenir aussi au sonore précédent, je suis entièrement d'accord mais avec ce qui a été dit par Boltanski, c'est-à-dire
que... Oui, j'allais revenir là-dessus. En fait, Boltanski... souligne le fait que son destin en fait l'aurait bloqué dans une sorte de position d'Anne Frank. C'est de ça dont vous parlez.
Oui, pour moi c'est absolument désastreux, c'est-à-dire que je me bats pour que toutes les expositions n'aient pas forcément, les prochaines n'aient pas un lien avec une quelconque, enfin la religion juive, c'est-à-dire que pour moi c'est une immense artiste et il faut la sortir absolument du contexte. Alors c'est un peu compliqué parce que l'œuvre de Charlotte a été donc confiée à un médecin dans le sud de la France et puis
au docteur Moridis,
dont j'ai retrouvé la fille pour mon livre, et puis en 1947 son père et sa belle-mère sont allés sur les traces de Charlotte. Ils savaient qu'elle était déportée, qu'elle était morte, mais ils ont eu besoin d'aller être les témoins des derniers instants de Charlotte. Et c'est là qu'ils découvrent l'œuvre extraordinaire. Et tous leurs amis leur ont dit qu'il fallait absolument exposer. Et puis, il y a eu pas mal d'expositions. Et puis, ils ont voulu léguer l'œuvre après pour qu'un musée puisse s'en occuper après leur mort. Et ils ont essayé de le donner au musée des Beaux-Arts de Berlin. Et finalement, c'est le musée juif d'Amsterdam qui a en charge la conservation de l'œuvre de Charlotte Salomon. Donc le paradoxe, c'est qu'à la fois, ils ont fait un travail extraordinaire puisqu'ils ont conservé l'œuvre, mais en même temps, il n'a pas tort. C'est un peu absurde d'enfermer une telle artiste finalement dans une communauté ou dans une, comment dire, un carcan historique lié au nazisme. C'est ce qui a pu aussi peut-être gêner sa postérité par moment. Tout en reconnaissant, moi j'ai découvert l'œuvre par exemple au musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2006 à Paris. C'est-à-dire
Oui, donc ça a malgré tout une importance.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un contre l'autre, mais cela a pu gêner d'une certaine manière l'autonomie finalement de l'œuvre de Charlotte.
Alors il y a une question qu'on se pose, c'est si son histoire n'avait pas été écourtée, est-ce que vous pensez qu'elle aurait poursuivi son œuvre ? Ce que je veux dire, c'est que on comprend bien ce moment intense de création qui malgré tout est dicté par un contexte. J'imagine que ça vous arrive d'avoir des moments d'urgence, parfois peut-être, d'écrire. Là, est-ce qu'ensuite on arrive à écrire
Oui, là c'est vrai que pour Charlotte c'est vraiment une urgence totale, inouïe. Et c'est vrai que quand elle finit son œuvre d'ailleurs, alors qu'elle est bloquée, elle arrive finalement à renouer avec la vie, à se marier, à tomber enceinte. Et quand elle est déportée et tuée, elle sera même enceinte. Elle portera la vie en elle. Donc c'est une œuvre qui va lui permettre de se propulser vers l'avenir et vers la vie. C'est évident que Charlotte, si elle n'avait pas été rattrapée par la morbidité, par la fatalité, par la saloperie humaine, puisqu'elle a été dénoncée par un Français, alors que tout le monde la connaissait à Villefranche-sur-Mer, c'est évident qu'on aurait eu une vie artistique, à mon avis, d'une très très grande importance. Peut-être même une vie qui aurait eu un lien avec le cinéma ou le théâtre, avec plusieurs formes. Mais rappelons ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Charlotte a obtenu le premier prix aux Beaux-Arts à Berlin en 1938. Donc on était face à quelqu'un qui était véritablement au-dessus du lot à tous les niveaux.
Oui, vous le rappeliez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Charlotte Salomon n'était pas totalement déconnectée du contexte artistique de son époque. Donc elle a fait des études, vous le rappeliez, notamment aux Beaux-Arts de Berlin. Et puis elle fait de nombreuses références, ça se voit qu'elle a fait des études, puisqu'elle fait de nombreuses références dans son livre... vie ou théâtre, elle parle de, elle cite Michel-Ange par exemple, dont elle a vu les œuvres à Rome. Elle cite Van Gogh, Kirchner, Munch. D'ailleurs, vous-même, vous citez pas mal de tableaux de
Munch
notamment.
Oui, je cite les influences principales de Charlotte, de Nolde à effectivement Munch, mais aussi oui, elle a été influencée par Nolde et aussi par tous les dégénérés finalement. Et c'est ce qui a aussi excité son avant-gardisme, sa modernité. Accompagné par son mentor, son Pygmalion Alfred. Ils étaient évidemment en opposition à la barbarie nazie qui voulait étendre son domaine sur la vie artistique. Le fait que Beckmann et tant d'autres aient dû quitter l'Allemagne, ça l'a profondément marqué. Hein.
Oui, finalement, cette spontanéité, cette, dans la couleur, même d'un point de vue très formel, c'est quelque chose complètement... dans l'époque, en fait, qu'on retrouve.
Oui, alors
par
c'est
exemple,
vrai
chez
que...
ces moments où se forme Cobra. Enfin, c'est vraiment. En fait, elle correspond exactement à la modernité du moment.
Alors, c'est ce qu'on admire le plus, finalement, chez tous les artistes et tous les génies. C'est-à-dire qu'ils sont le fruit de leur époque, de leur temps. Ils ont assimilé, finalement, peut-être tout ce qui s'est produit au niveau de la modernité la plus intense. Et en même temps, ils avancent encore d'un pas. C'est-à-dire que Charlotte fait un travail absolument unique et inédit, tout en étant dans la filiation de ces artistes qui sont arrivés avant elle. Évidemment, on peut aussi parler de Chagall dans ses influences majeures, de par les couleurs et aussi de par le projet artistique, puisque Chagall, avec Ma vie, a commencé à faire de la peinture autobiographique. Donc les auteurs les plus puissants de l'époque, elle les connaissait évidemment. Elle écoutait Walter Benjamin lors de ses émissions à la radio. Elle connaissait le travail du grand historien d'art Abby Wargburg. Elle était évidemment au fait de tout ce qu'il y avait de plus intéressant à cette époque-là. Et j'ai toujours pensé que l'Allemagne des années 20, l'Allemagne des années 30, représente à mes yeux le sommet de la suprématie intellectuelle, scientifique, culturelle, philosophique. Et c'est toute cette génération qui va être asphyxiée progressivement.
Il y a un tableau, enfin une gouache très belle qu'on pourrait décrire, qui est une scène amoureuse où on voit Charlotte et Alfred qui sont enlacés, leurs corps ne faisant presque plus qu'un, dans un même halo de couleurs, une sorte de désir d'harmonie, on a l'impression, dans la manière dont Charlotte peint cette scène. Vous-même, vous faites référence au tableau de Munch qui est « Tête d'homme dans les cheveux d'une femme ».
Oui, alors ça, c'est une référence personnelle. C'est-à-dire que dans mon livre, il y a des références, par exemple, quand ils sont ensemble, enlacés, il la compare à un tableau de Michel-Ange. Et ça, c'est Charlotte qui écrit. Et moi, c'est
donc
vrai
vous
que...
vous rajoutez des références. C'était ça ma question.
Oui, je rajoute des références qui sont... vous parliez de Munch tout à l'heure, parce que vous avez totalement raison. On est dans cette énergie-là, on est dans cette époque, on est dans cette façon de voir les choses. Et j'avais toujours été fasciné par ce tableau, l'idée que, finalement, les cheveux d'une femme pour un homme... Ça pouvait être le refuge total, finalement, et qu'il y a quelque chose pour un psychopathe capillaire comme moi qui m'excitait dans ce tableau énormément et que je trouvais très, très beau, très poétique. Et c'est vrai qu'il y a des dessins où on voit Charlotte comme ça ou Alfred qui s'enfouit dans le corps de Charlotte. Vous avez raison, ils ne forment plus qu'un. Ils se décolorent l'un sur l'autre. Et il y avait ça dans le magnifique titre « Tête d'homme dans les cheveux d'une femme » de Munch.
Dans votre livre, vous décrivez une autre œuvre où on voit Charlotte de dos sur lequel est écrit le titre de son œuvre, Leben oder Theater, vie ou théâtre. Je vous propose d'écouter un dernier extrait de votre livre.
La dernière peinture est saisissante de force. Charlotte se dessine face à la mer. On la voit de dos. Sur son corps, elle écrit le titre Leben oder Theater. C'est sur elle-même que se referme l'œuvre dont sa vie est le sujet. Cette image ressemble étrangement à une photo de Charlotte. Sur ce cliché, on la voit peindre sur les hauteurs, surplombant la Méditerranée. Elle regarde avec désintérêt l'objectif. On dirait que le photographe vole un moment de sa contemplation, de la vie qu'elle mène en fusion avec la nature. Charlotte semble se confondre avec les herbes, émerveillée par la couleur du ciel. Face à l'éclat, on pense aux derniers mots de Goethe sur le rivage de la mort. Il s'est mis à crier « Plus de lumière !» Il faut une lumière éclatante pour mourir. Tout en haut du rocher poussent des poivriers. Le vent agite doucement les petites feuilles argentées. En contrebas, l'écume se volatilise sur la mer, s'étirant à l'infini. Écume, rêve, mes rêves sur fond bleu. Comment faites-vous pour sans cesse vous reformer lumineux à partir de tant de souffrances et de douleurs? Qui l'a permis? Rêve, parle-moi. De qui es-tu le valet? Pourquoi me sauves-tu? Tout en haut du rocher poussent des poivriers. Le vent agite doucement les petites feuilles argentées.
Après cet extrait de votre livre où vous décrivez la dernière peinture de Charlotte, on entendait à l'instant le texte de Charlotte qui accompagne une autre gouache qui représente également Charlotte peignant au bord de la mer. Elle dit « Mes rêves sur fond bleu, comment faites-vous pour sans cesse vous reformer, lumineux, à partir de tant de souffrances et de douleurs ?» C'est magnifique.
C'est magnifique et ça me fait plaisir que vous ayez extrait cette phrase parce qu'on voit toute la poésie, toute la beauté, toute l'intensité de l'œuvre de Charlotte et c'est des phrases comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. Moi j'ai mis quelques phrases dans mon livre qui sont en italique, ce sont les mots de Charlotte. Pour moi c'est aussi un très très grand écrivain et tout est là. Comment finalement on arrive à renaître en permanence à travers les rêves, à travers le ciel, à travers le bleu, à travers la beauté. C'est sa leçon finalement de poésie et d'intelligence et de lumière qui m'a hanté et qui est au cœur de sa vie.
Alors j'aimerais qu'on décrive un peu cette peinture qui, je trouve, est d'une douceur infinie. Comme la dernière gouache que vous décriviez d'ailleurs, on voit ici sur un fond bleu, donc la jeune fille dessinant au bord de la mer, représentée plusieurs fois sous différents angles à des moments successifs de sa création. Et qui forme comme une ronde de personnages qui se répètent vers l'horizon et qui tournoient dans la page comme s'ils étaient entraînés par la vague qu'elle essaye de représenter. Vous voyez la même chose que moi? Comment vous décririez cette peinture?
Vous avez raison. Ce qu'on peut dire en premier, c'est avant tout le mouvement, évidemment. Et c'est vrai qu'à la fois dans le texte, puisque là, elle répète deux fois comme un refrain, comme une ritournelle. Elle aime bien répéter, finalement, pour que le texte soit assez musical, tout comme ses tableaux sont musicaux. Puisqu'on a l'impression d'avoir une mélodie qui avance à travers...
Ce sont comme des partitions, il y a les lignes qui ondulent.
C'est ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que sa peinture, c'est une peinture qui n'est jamais figée. On pourrait imaginer au cinéma qu'elle ne ferait aucun plan fixe. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de créer de la vie à travers ce qui peut paraître figé. Et je pense que... Si son œuvre est si lumineuse, si pleine de force vitale, c'est aussi par la force de son inventivité qui fait que elle va inventer des choses, des façons de peindre. Elle va inventer justement de pouvoir se dessiner 8 ou 10 fois sur un même tableau avec des positions différentes, ce qui fait qu'on a un personnage qui évolue sous nos yeux, un peu comme si on la voyait peindre en regardant le tableau. Il y a quelque chose de très moderne dans cette démarche. C'est aussi pour ça que le dernier tableau, c'est elle-même qui met le titre sur son dos. Puisque
l'œuvre se referme sur elle-même.
L'œuvre se referme sur elle-même. Et puis, son projet artistique, c'est de raconter sa vie jusqu'au moment où elle commence à peindre son œuvre. Et elle termine en disant « C'est ainsi qu'est née vie ou théâtre ». Et elle dit que pour aller écrire cette œuvre... Elle donne le mode d'emploi de son œuvre, ce sont des mots absolument magnifiques, où elle dit qu'elle doit aller plus profondément dans la solitude pour recréer finalement son passé.
Et finalement, ce fond bleu, ces couleurs qui sont très différents d'autres gouaches, où l'atmosphère est beaucoup plus sombre. Je pense à la représentation de toutes ces femmes de sa famille luttant avec la vie, où les touches de couleurs sont très sombres, où les lignes sont acères pour traduire la peur. Ce fond bleu, lorsqu'elle se peint elle-même en train de peindre, est-ce que ce serait pas, en quelque sorte, la représentation de, je ne sais pas, de l'allégresse, de l'œuvre en train de se faire, du
oui,
sentiment
c'est...
de liberté?
Exactement, mais
qu'elle éprouve alors.
C'est exactement ça, le sentiment de liberté qu'elle éprouve. Il faut bien imaginer que là, elle raconte ses premiers moments dans le sud de la France. Et donc, c'est une jeune femme qui, non seulement a une histoire familiale très difficile, mais en plus souffre depuis 1933. Donc pratiquement 7 ans d'humiliation, de violence, et que quand elle quitte Berlin sous la contrainte pour échapper au nazisme, c'est très difficile pour elle, mais elle est rattrapée par une émotion extatique quand elle arrive à Nice, à Villefranche-sur-Mer, et elle va peindre sur les hauteurs, face à la mer, avec une lumière si belle. Et donc c'est vrai que ces tableaux-là montrent l'allégresse, montrent une forme de survie par la nature. Et c'est vrai que l'œuvre de Charlotte Salomon est très sauvage, et vraiment organique, si j'ose dire. Il y a un lien avec la sensualité de la nature en permanence.
Alors c'est très touchant, on a l'impression que vous êtes très proche de Charlotte quelque part, et d'ailleurs le titre de votre roman c'est Charlotte, Charlotte tout court, vous vous en tenez au prénom comme si vous la connaissiez ou comme si vous l'aviez connue, il y a une sorte d'intimité que vous instaurez.
Non mais c'est vrai que c'est un livre de tutoiement, j'ai hésité avec les titres, je voulais appeler le livre C'est toute ma vie, parce que ce sont les mots de Charlotte au moment où elle finit son œuvre. Mais je me suis rendu compte que voilà, c'est un livre de conversation aussi avec elle, et que je voulais vraiment qu'on la déconnecte du siècle, qu'on pense à elle en tant qu'artiste, en tant que génie de la peinture, en tant que femme, en tant qu'intimité. Et Charlotte, j'avais l'impression que finalement, c'était le titre pour pouvoir vraiment se centrer sur elle, sur sa personnalité. Et tout mon projet aussi, c'est de parler de tout ce qui s'est passé, de toute sa vie, mais d'être en permanence au plus proche d'elle.
Merci David Funkinos, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble, non pas une, mais de nombreuses œuvres, une série de gouaches réalisées entre 1940 et 1942 par l'artiste allemande Charlotte Salomon, aujourd'hui conservée au Musée historique juif d'Amsterdam. Pour en parler, nous étions en compagnie de David Funkinos, qui a consacré l'un de ses plus beaux romans, je trouve, à cet artiste, sous le titre de Charlotte, publié en 2014 chez Gallimard. Il existe aussi d'ailleurs une très belle version illustrée par certaines des gouaches de Charlotte Salomon. Et je crois, David, que vous êtes en train d'écrire l'adaptation cinéma, non, de
oui,
ce livre.
Oui, oui, je suis en train d'écrire le scénario, et c'est Olivier Dahan qui devrait réaliser le film.
Le réalisateur de La Môme, entre
voilà,
autres.
Voilà, exactement.
Ouais, on attend cela avec impatience.
Qui a été étudiant aux Beaux-Arts.
Donc ça vous plaît, ça, le côté
oui, parce que
plasticien.
Voilà, exactement. On a parlé beaucoup de peinture avant de parler du projet du film.
Enfin, je vous signale l'exposition de 300 gouaches originales de Charlotte Salomon. En ce moment, au musée Masséna à Nice, l'exposition a lieu jusqu'au 24 mai. Donc dépêchez-vous d'y aller. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, lecture des textes, la belle voix de Pascal Zonzi, à la technique Guillaume Leduc, réalisation Franck Lilin, Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam. Et dans quelques instants, Catherine Libert et Villemonde.
To go by.